Livre deuxième. La guerre des loups. Chapitre 12. Lugnasad. La mémoire de la terre est étrangère à celle des hommes. On croit tout connaître de l'histoire et du monde, mais il est des âges oubliés où se croisaient encore mille merveilles aujourd'hui disparues. Seuls les arbres se souviennent, et le ciel, et le vent. Et si un soir d'été, l'âme bienveillante, vous vous allongez dans l'herbe, et vous les écoutez le cœur ouvert, vous entendrez peut-être cette histoire d'un autre temps, au pays de Gaëlia, celle de la louve blanche et de l'enfant qu'on appelait Aléa. C'était au soir d'une belle journée d'automne. L'été n'était plus qu'un souvenir, quelques dernières feuilles sur les arbres des vallons, quelques animaux cherchant des vivres pour préparer l'hiver. Le vent s'engouffrait dans les conifères des montagnes de Gordraka et le ciel s'assombrissait déjà. Il était arrivé par le sud-ouest, un grand sac sur les épaules, ombre droite, chef couvert, marchant d'un pas décidé vers le nord de la Gaëlia. Il était encore loin de son but, de cet édifice perché sur une presqu'île mystérieuse. Saïmina, le palais des druides, le temple de toutes les sagesses, où il voulait recevoir son enseignement. Casfad, fils de Catubatuos. Son nom portait déjà le poids de son destin. Un jour, il serait grand druide, et un jour, il parcourrait le monde pour dispenser son savoir. Était-ce le hasard qui l'avait mené ce soir d'automne en cet endroit précis? Ou bien était-ce la Moïra? Rien dans le paysage ne pouvait trahir le secret de ce lieu, et pourtant, ce fut là qu'il choisit de passer la nuit, au pied de la montagne, à quelques heures de marche d'Atarmaja, sous le grand rocher qui sépare les deux mondes, devant l'entrée du Cid. Ce n'est qu'après avoir dîné d'un lièvre et de quelques fruits ramassés alentour que le jeune homme remarqua la forme étrange du roc qui surplombait son campement. Un haut dolmen à la surface parfaitement lisse, comme un géant de pierre qui le surveillait. Lentement, il se leva et avança vers le grand bloc de roche. La lune projetait son ombre devant lui, et la nuit entourait le monument d'un silence singulier. Celui qui, plus tard, serait druide, tendit les bras vers la pierre pour la toucher. Le rocher avait quelque chose d'extraordinaire, comme si ses proportions parfaites ne pouvaient lui valoir d'autre paternité que divine. Retenant son souffle, le jeune Casfad posa délicatement ses mains sur la surface grise. Au lieu de la froideur qui l'attendait, il trouva une roche chaude, douce, vivante presque. Surpris, il retira ses mains et fit un pas en arrière. Aussitôt, la paroi sembla changer de couleur. Casfad leva la tête pour voir si c'était la lune qui créait ainsi d'étranges reflets. Mais la lune était blafarde, et la pierre, elle, devenait rouge. Le jeune homme recula encore. En vérité, il commençait à avoir peur, quand soudain une silhouette se dessina dans les reflets mouvants du dolmen. C'étaient les formes d'une femme. Les formes parfaites d'une femme. Les traits se précisaient petit à petit, comme si l'image s'approchait lentement, laissant deviner un corps, un visage, un regard. Casfad, à présent, était ébahi. Immobile, il assistait à un spectacle féerique. La femme le dévisageait. Non, elle lui souriait. Les flammes rouges vacillantes disparurent bientôt derrière elle, et enfin elle fut là, devant lui, bien réelle. Elle était magnifique et sauvage. Les cheveux noirs, de grands yeux bleus, la peau foncée des gens du sud. Elle était fine, fragile sans doute, et elle ne prononça pas une parole. Avec la grâce d'une danseuse, elle ouvrit les bras, s'approcha du jeune homme et prit ses mains dans les siennes en lui adressant un tendre sourire. Il n'y eut pas un mot, que des regards et des souffles. Leurs deux corps se rejoignirent sous les baisers de la lune et la nuit accompagna leurs ébats comme un témoin discret. Ce fut aussi simple que cela. Au matin, Casfad se réveilla en sursaut. Le soleil d'automne ne l'avait pas tiré de son sommeil. Il regarda autour de lui. La femme n'était plus là. Et le rocher, dans la lumière du jour, n'était plus qu'un rocher comme un autre. Le jeune homme se leva en silence, incrédule. Plus rien autour de lui ne pouvait confirmer ses souvenirs. Mais il sut qu'il n'avait pas rêvé. Son corps tremblait encore. Qazfad n'avait jamais connu l'amour. Et plus jamais il ne le connaîtrait de nouveau. Ce fut l'unique fois. Jamais il ne revit celle qu'il avait aimée. Le Cid avait refermé ses portes. Il n'y avait, sur tout le territoire de la Gaëlia, de louve plus blanche que celle-ci. Aussi les conteurs l'appelèrent Imala, qui est le nom de la couleur de la neige dans le langage des Sylves. On ne pouvait la confondre avec aucun autre loup de l'île, et cette différence n'était d'ailleurs pas la seule qui la démarquait de ses congénères. Imala avait changé. Elle avait quelque chose de plus que tous les autres loups, et cela se voyait dans sa démarche, dans ses yeux, dans le noble maintien de sa blanche gueule. Imala avait rencontré les verticaux. Elle marchait à présent vers le nord, lentement, profitant entre chaque foulée des grâces de l'été, de l'herbe verte, du sol frais, qu'indiquait l'abondance de lys et de mélique blanche penchée, du gibier, chevreuil, lièvre, perdrix. Par moments, elle se couchait sur le flanc sous les rayons du soleil, jouissant de la chaleur estivale. Puis elle secouait la tête pour chasser les insectes peu méfiants qui s'approchaient trop près. Elle n'était toujours pas sortie du territoire de son ancienne meute, où elle n'aurait pourtant pas dû revenir. Elle ne pouvait ignorer, ça et là, les marquages laissés par les loups du clan qui signalaient qu'elle n'était pas chez elle. Mais Imala ne s'en inquiétait guère. Elle avait battu Aena, la dominante, dans un long combat auquel toute la meute avait assisté. Elle avait affirmé sa supériorité. Aena était partie, la queue repliée entre les jambes, collée sous son ventre, et les autres loups s'étaient tus. Ils ne viendraient plus la défier. Pour quelque temps, en tout cas. Elle aurait pu rester dans la meute, prendre la place d'Aena. Elle aurait fait une dominante idéale pour le clan, encore jeune et déjà forte, déterminée. Mais Imala cherchait autre chose. Quelque chose que son esprit ne lui permettait pas de comprendre tout à fait. Tout cela n'était pas clair pour elle, mais son instinct l'appelait ailleurs, vers le nord, et elle laissait le clan derrière elle sans regret. Aena, l'ancienne dominante, se ferait probablement chasser très vite par les siens. Elle avait perdu de sa superbe en se soumettant à Imala. Une louve plus jeune finirait bientôt par la défier, et sans doute par la battre. La nature était ainsi faite. Rarement une louve dominait le clan toute sa vie. Et Aena partirait en silence, elle qui, jadis, avait fait fuir Imala en tuant ses petits. Mais cela, Imala ne pourrait le voir. Elle avait mieux à faire. La queue battante, elle suivait maintenant vers le nord la trace de la verticale qui était venue vers elle, qui l'avait approchée, qui l'avait caressée. Elle ne se le figurait sans doute pas si clairement, mais ce qui Imala cherchait, c'était bien la jeune fille aux cheveux sombres. Après quelques jours de marche sous le soleil, Imala sut qu'elle n'était plus sur le territoire de son ancien clan. En un sens, cela ne la rassurait guère. Elle se sentait moins en sécurité, s'arrêtant plus souvent pour surveiller chaque bruit, trottant plus près du sol, les oreilles couchées vers l'arrière. À présent, elle allait devoir chasser. La faim commençait à lui labourer le ventre. Elle était seule, et le gros gibier n'était pas une proie facile pour une louve solitaire. Et la forêt giboyeuse n'était plus qu'un souvenir. Ici, il y avait moins de lièvres et plus d'espace pour s'enfuir. La louve continua ainsi vers le nord sans croiser aucune piste, quand juste avant le soir, elle ralentit soudain le pas de sa course. Elle venait de sentir une odeur familière. D'instinct, elle se coucha dans les herbes hautes de la plaine. À quelques foulées, elle en était sûre, dans le cœur des collines qui se dessinaient vers l'est, se trouvait un troupeau de moutons. Proie facile, faible, lâches et lentes. Un repas aisé, même pour une louve esselée. Imala se lécha les babines. En silence, elle se remit sur ses pattes et reprit son trot vers l'est. Elle ne suivit pas une course rectiligne, mais allait décrire un grand cercle pour se rabattre progressivement sur le flanc du troupeau, contre le vent léger qui la protégerait peut-être quelque temps en masquant son odeur et le bruit de ses pas. Bientôt, elle aperçut le groupe. À peine une dizaine de bêtes. Une seule suffisait. D'abord, il fallait choisir. Observer les moutons pour repérer le plus faible, celui qui la ferait le moins courir. Inutile de se fatiguer. Imala s'arrêtait par moments, craignant d'être repérée quand un mouton cessait de paître, puis elle reprenait son trot discret sans quitter le troupeau du regard. Elle n'était plus qu'à quelques foulées maintenant, et aucune bête ne l'avait encore aperçue. Pourtant, les moutons commençaient à s'exciter. L'un d'eux avait sans doute senti le danger et s'était mis à bêler, entraînant les siens derrière lui. C'était le moment d'attaquer. Imala était prête. Elle avait choisi sa proie. Un agneau, de son côté du troupeau. Un petit agneau qui boitait et qu'elle n'aurait sans doute aucune peine à attraper. Elle était sur le point de bondir quand soudain, elle sentit une odeur inattendue. Un autre animal, pas un mouton. Elle n'était pas seule. La louve blanche s'arrêta aussitôt et reprit l'arc de sa course en essayant de voir à travers les herbes d'où venait cette odeur nouvelle. Les moutons, cette fois, l'avaient vue. Ils n'avaient pas bougé pendant les premiers instants, pris de court, mais l'instinct de survie prenait maintenant le dessus et le troupeau commençait à s'enfuir. C'était une course désordonnée, quelques sauts, quelques foulées dans une direction, puis dans une autre. Il y avait quelque chose d'anormal. Un élément inconnu qui modifiait la course des moutons et qu'Imala ne comprenait pas. Elle décida pourtant d'accélérer le pas et de s'approcher davantage, malgré la menace que représentait cette odeur inconnue. Elle gagna un peu de distance, sans attaquer toutefois, quand soudain elle comprit ce qu'il se passait. Les moutons n'étaient pas seuls. Un chien les accompagnait. Elle venait de le voir, de l'autre côté du troupeau. Tache grise apparut brièvement au milieu de la laine blanche. Ce n'était pas un grand chien, mais il était vif et sans doute décidé à protéger le troupeau. Il n'en fallait d'ordinaire pas beaucoup plus pour faire renoncer un loup. Mais Imala avait de plus en plus faim, et son contact avec les verticaux lui avait donné une assurance nouvelle, un soupçon d'orgueil peut-être, qui lui dictait de se battre, d'affronter ce gardien. La louve essaya toutefois de s'approcher du troupeau par le flanc gauche. L'agneau qu'elle avait repéré n'était pas très loin, et elle pourrait peut-être l'atteindre avant que le chien ne puisse intervenir. D'un seul élan, elle bondit vers le cœur du groupe. Elle avait changé soudain de direction et courait de toutes ses forces vers les bêtes affolées. Mais le chien avait sans doute prévu l'attaque et courait déjà vers elle en aboyant. Imala s'arrêta aussitôt et repartit dans l'autre sens, plus lentement. Elle continua de suivre un grand cercle imaginaire autour du troupeau, mais le chien, cette fois, ne se contentait plus de protéger les moutons. Il semblait prêt à attaquer. Montrant les crocs, les pattes avant tendues, il grognait en fixant la louve blanche. Imala hésita. Elle était un peu plus grande que le chien, mais il était mieux nourri et peut-être plus fort. Elle arrêta son trot pour se mettre face à lui, mais elle n'était pas encore en position de se battre. Son regard faisait des allers-retours entre le chien menaçant et l'agneau qui boitait derrière lui. Le molosse dut intercepter son regard. Ses grognements redoublèrent d'intensité et il effectua quelques soubresauts menaçants vers la louve. Les moutons bêlèrent de plus belle. Imala retroussa ses babines à son tour pour montrer ses longs crocs affilés. Le chien n'attendit pas un instant de plus et bondit dans un grondement sauvage. La louve s'élança à son tour et les deux animaux se heurtèrent en plein vol, la gueule grande ouverte, cherchant chacun la gorge de son adversaire. Ils retombèrent comme un seul bloc et roulèrent sur le sol, emmêlés dans une lutte sans merci. Chaque fois que l'un des deux parvenait à saisir la gorge de l'autre, il était repoussé par les pattes arrière qui se débattaient férocement. Pendant quelques instants, ils essayèrent ainsi d'achever le combat d'une attaque fatale, puis soudain, ils se redressèrent sur leurs pattes, face à face, reprenant leur souffle et cherchant un nouvel angle d'attaque. Le combat était équilibré. La louve était plus rapide, mais le chien plus costaud. Ce n'était pas un simple chien domestique et docile, mais une bête agressive que l'on avait sans doute entraînée au combat. Toutefois, les crocs de la louve étaient plus dangereux, sa mâchoire plus puissante, son cou plus fort. Elle pouvait l'emporter. Après avoir observé le rythme de son adversaire sans cesser de grogner, le chien bondit de nouveau, par le côté cette fois. Imala eut tout juste le temps de pivoter pour protéger son flanc des canines de son adversaire. Mais elle ne put l'esquiver complètement et le chien parvint à mordre le haut de sa cuisse. Elle poussa un cri de douleur avant de se dégager complètement. La souffrance fit redoubler sa colère. N'écoutant plus que son instinct qui lui dictait de tuer, la louve sauta à son tour sur son adversaire. Sa patte avant gauche fouetta l'œil droit du chien. Ses griffes traversèrent la surface oculaire et s'enfoncèrent dans le globe ensanglanté. L'animal hurla de douleur et roula sur le côté pour se dégager. Mais Imala ne lui laissa pas un instant de répit. Profitant de la confusion de son adversaire, elle se jeta sur sa gorge et le mordit à pleines dents, l'entraînant jusqu'au sol dans son élan sauvage. Les hurlements du chien s'étouffèrent comme la louve cisaillait avec rage ses cordes vocales. Le sang de l'animal éclaboussa la fourrure blanche d'Imala, pure et poisseuse qui coulait par son cou. Dans un dernier geste de rage, la louve secoua la tête pour briser la nuque du chien affaibli, et bientôt, il ne bougea plus du tout. Quand elle lâcha prise, le molosse était déjà mort, et les moutons avaient fui. Imala n'hésita pas un instant et se mit à courir derrière le troupeau sans défense, abandonnant à la plaine le cadavre laminé de son lointain cousin. Cela aurait pu être un été comme les autres dans la vallée des sables. Le sol brillait comme des cristaux de verre. Le ciel était un océan calme qu'aucune vague n'abîmait. Quelques rapaces simplement venaient perturber la voûte bleue, décrivant dans les nues de grands cercles harmonieux comme les ondes paisibles d'une goutte dans l'eau. Il n'y avait pas de place pour l'ombre, hormis sous quelques pierres où l'imprudent eût réveillé par mégarde des scorpions endormis. Cela aurait pu être un été comme les autres, mais il y avait sur l'horizon la marque d'un bouleversement. Le début d'une ère nouvelle, le chant annonciateur d'une guerre. Au-delà des roches rouges, au bout de la vallée, là où semblait se finir la terre, s'étendaient à perte de vue des colonnes mouvantes qui glissaient lentement vers le nord. De grands serpents lointains, soulevant des nuages de sable, traversant l'air pesant de la canicule. Les gorgones. Des armées de gorgones. Des alignements de lances, d'armures, de regards pourpres et féroces, les muscles balafrés de leur peau verte se redessinant à chaque pas. Des files guerrières que plus rien ne pourrait arrêter et qui convergeaient enfin en un point que le soleil d'août éclairait de mille feux. Le palais de Shanka. Maol Morda avait appelé à lui tous les gorgones de l'île de Gaelia. Et depuis plusieurs jours, c'étaient des armées entières qui marchaient jusqu'à lui. Il était le porteur de la flamme. Il était leur guide. Il serait leur vengeance. Et par lui, pour lui, ils anéantiraient les druides. Telle était la promesse qui grondait dans leurs veines. Rares étaient les disciples de Maol Morda qui avaient eu le privilège, terrifiant, de regarder leur maître dans les yeux. On disait même que c'était un mauvais présage, que tous ceux qui avaient dû lever le regard vers le seigneur des Gorgones avaient péri dans les heures, les jours ou les semaines qui avaient suivi. Et ce messager-là ne fit pas exception. En entrant dans la salle du trône, la pièce la plus obscure du palais, l'homme comprit aussitôt qu'il n'en sortirait pas vivant. Maol Morda était assis, silencieux, sur son haut siège sculpté dans des ossements humains. La lumière rouge de la lave qui coulait dans les bassins tout autour emplissait l'espace comme un halo phosphorescent. On entendait simplement le bruit des chaînes au pied d'une esclave mutilée et les remous de la lave en ébullition dans les vases. Le maître avait demandé qu'on ne le dérange sous aucun autre prétexte que l'arrivée de ce messager. La lenteur des gorgones avait déjà provoqué sa colère. Plus rien ne pourrait sauver celui qui allait apporter la mauvaise nouvelle. Et en effet, quand il apprit la mort des chevaliers Eridim, Maol Morda entra dans une rage folle. Son cri déchira l'atmosphère gluante de la salle du trône. Il se leva brusquement et attrapa le visage du messager de ses deux mains pour le regarder droit dans les yeux. Le veilleur se mit à trembler de tout son corps. Il aurait voulu crier, mais la peur lui avait enlevé tout contrôle de sa voix. Il ne sentait pas même les larmes sous ses yeux, pas même la sécheresse soudaine de sa gorge. Les doigts de Maol Morda serraient, de plus en plus fort, comme un étau sur son visage. Ses joues s'empourpraient et ses yeux s'emplissaient de sang. Le sang qui battait à ses tempes et faisait bourdonner ses oreilles. Puis Maol Morda serra encore plus fort et le veilleur sut que c'était la fin. Les os de sa tête cédèrent sous les mains de son bourreau. Les fragments de la calotte crânienne se mêlèrent au cerveau et au sang dans une bouillie visqueuse et le corps du messager s'écroula sur le sol, comme une poupée sans vie. Le cri de rage de Maol Mordas s'éteignit enfin. L'écho même de sa voix sembla s'effacer d'un seul trait, comme si le temps s'était soudain arrêté. Le maître des Gorgones fit un pas en arrière et s'assit de nouveau sur son trône. Ainsi, la petite peste avait vaincu Sultor. Il ne parvenait pas à y croire. Aïn Sultor, prince des Érylim, maître de l'Ariman. Vaincu par une fillette de 13 ans. Maol Mordas ferma ses paupières sur ses yeux enflammés. Il lui fallait un autre guerrier, un nouveau capitaine, quelqu'un qui pourrait mener cette fois les Gorgones à la victoire, effacer la jeune fille et tous les druides d'un seul coup. Mais personne ici ne méritait cette place. Il n'y avait pas un seul guerrier digne de Sultor. Il faudrait chercher ailleurs. Il n'avait pas le choix. Les Gorgones avaient besoin d'un chef pour que l'Unsin puisse commencer. D'un chef peu ordinaire. Fingin était à présent seul dans la chaleur estivale de ses nouveaux appartements. Ce n'était plus la petite pièce sobre et carrée des apprentis, ni même la chambre plus grande des druides. Hernan l'avait nommé grand druide, et le jeune homme bénéficiait à ce titre de l'une des 13 suites luxueuses qui étaient réservées aux sages de son rang. Tout était allé si vite. Quelques jours à peine après son initiation, les événements s'étaient enchaînés et chaque matin, le monde semblait être devenu encore un peu plus fou. La mort d'Aïlin, d'Aod et d'Aldero, la fuite d'Aléa, la jeune fille qui prétendait être le Samil d'Anak, et derrière elle, de Félim et Galiad. Puis Fingin avait fait d'Erwan son magistel avant que celui-ci ne parte sur les routes de la Gaëlia pour tenter de retrouver la jeune fille. Erwan, son meilleur ami, son confident, qui avait comme lui passé les 7 dernières années à Saïmina, qui avait connu les mêmes doutes, les mêmes joies. Où était-il aujourd'hui? Avait-il retrouvé son père? Avait-il sauvé la jeune fille? Fingin était sûr d'une seule chose. Son ami était vivant. Cela, il le savait, parce que les liens qui unissaient un druide à son magistel étaient si forts que la mort de l'un affectait l'autre de telle sorte qu'il ne pouvait l'ignorer. Ainsi, Erwan était en vie. Mais où? Fingin s'approcha de la grande fenêtre de son office. Il observa un instant le dragon de la Moira, brodé sur le velours rouge des grands rideaux. Dehors, le soleil pourtant lourd n'empêchait pas les magistels et leurs apprentis de s'entraîner. Le palais était en alerte. La guerre était proche. Et pas seulement la guerre, mais de nombreux conflits. Il en naissait chaque jour de nouveau. Le retour des Tuatan semblait avoir précipité la Gaëlia dans un bouleversement brutal. À moins que ce ne fût autre chose. Le plus jeune des grands druides ouvrit la fenêtre pour laisser entrer un peu d'air. L'été culminait. Le lendemain, malgré les préoccupations du conseil, on célébrerait l'Ugnasad, la fête du roi. Les cérémonies se tiendraient surtout à Providence, à la cour d'Eogan de Galassie et de la reine Amin, mais dans tout le pays, on fêterait l'été par des foires, des mariages, des jeux, des chants et des poèmes, et en Saïmina, le rituel de l'Ugnasad serait suivi par tous les druides devant le chêne centenaire de la grande cour. D'ordinaire, le haut roi était invité dans le palais des druides et assistait à cette cérémonie sacrée. Mais cette année, le mariage du monarque et les conflits avec Harcourt n'avaient pas permis aux deux parties de s'organiser. Fingin, lui, se doutait que ce n'était pas l'unique raison. Il devinait d'autres conflits d'intérêts derrière les arguments officiels. Le druide soupira. Dehors, tout le personnel de Saïmina s'agitait pour préparer la fête. Mais lui-même avait du mal à se concentrer, à focaliser son attention sur une pensée précise. Il était affaibli par un sentiment de tristesse. Erwan lui manquait tellement. Chaque soir, les trois compagnons s'installaient à quelques pas du chemin, allumaient un feu et partageaient un repas dans la fraîcheur attendue de la nuit. La journée, la nature respirait, s'emplissait de couleurs, d'odeurs et de lumière, et le soir, l'été offrait aux voyageurs un ciel empli d'étoiles. À la fin de ces dîners, Faith, la barde, prenait sa harpe pour apprendre à Mjoln quelques nouvelles mélodies qu'il répétait consciencieusement sur sa cornemuse. Elle lui enseignait les notes secrètes de la tristesse, les complaintes impénétrables de ce mode réservé aux gens de sa caste. Et le nain était comblé. Son rêve de pouvoir un jour devenir barde n'était plus illusoire aujourd'hui. Feys le guidait sur la bonne voie. Avec elle, il construisait pendant ses leçons musicales une intimité nouvelle, à chaque veillée, comme pour chasser un mauvais souvenir. Et chaque soir, les sanglots de la cornemuse jouant ainsi la tristesse accompagnaient l'âme peinée d'Aléa. La mort de Félim pesait encore lourdement sur son esprit. Le vieil homme, malgré ses manières austères et sa sévérité, lui manquait chaque jour un peu plus. Certes, elle lui avait reproché bien des choses quand il était auprès d'elle. Souvent, elle s'était rebellée, refusant de répondre à ses questions, mais elle s'était attachée à lui aussi. Il était le seul druide à avoir voulu la protéger. Mieux que ça, il avait préféré se faire bannir du conseil plutôt que de la laisser seule. Elle aurait voulu lui dire aujourd'hui qu'elle avait apprécié ce geste et que malgré tout, elle lui faisait confiance. Elle aurait voulu le remercier, tout simplement. Mais Félim n'était plus. Ainsi, Aléa ne s'était guère montrée bavarde depuis cette terrible bataille dans la forêt de Brocélia. On pouvait lire dans ses yeux des milliers de remords, des flots d'incertitude. Entourée de ses deux amis, elle était pourtant seule. Feys et Mjoln essayaient en vain de la divertir, mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient, l'un comme l'autre, qu'il ne lui suffisait pas. Aléa avait besoin de réponses. Elle avait vu tant de choses, découvert tant de mystères. Alors son visage s'était fermé. Silencieux. Accordant parfois quelques rares sourires gênés à ses compagnons impuissants. Mais elle était belle, toujours, dans la joute que l'ombre et la lumière se livraient dans la nuit. Les sylves lui avaient donné de nouveaux vêtements, et Feys avait coupé ses cheveux sur ses épaules. Elle n'avait plus l'allure débraillée d'une petite voleuse, et la noblesse de ses nouveaux habits se conjuguait bien mieux à la profondeur du regard qu'enrobaient ses yeux bridés. Les sylves l'avaient vêtue d'or et de bleu, et sur son dos, une cape blanche évoquait la robe des druides. Elle avait gardé, enfin, le bâton de chêne de Félim et ne le quittait plus. Comme la broche sur sa poitrine, il était le souvenir qu'elle voulait garder du druide, et elle ne se souciait guère de ce que le conseil pourrait en penser. Parfois, elle glissait le long bâton dans son dos, en bandoulière, mais le plus souvent, elle s'appuyait dessus pour marcher, restant en contact avec la chaleur unique qui le parcourait. Comme si le Saïman habitait à jamais les veines du bois sculpté. « Mjoln, tu joues de mieux en mieux », glissa-t-elle gentiment alors que le nain venait d'achever un nouvel air de tristesse. Le cornemuseur parut étonné. Les paroles d'Aléa étaient devenues rares et ses compliments encore davantage.
« Merci, lanceuse de cailloux. Mais je dois tout à Feys. Ma barde, vous êtes, oui, un excellent professeur. »
« Merci, monsieur Abak. » Feys non plus n'était pas d'humeur légère. Il y avait dans sa voix nostalgique 100 jours de regret. 100 journées passées sans l'habit bleu des bardes. Son esprit brûlant d'une vengeance inaccomplie. Feys appréciait ses quelques notes nocturnes, mais elle savait qu'elle n'était qu'une courte trêve dans un combat qu'elle s'était juré de mener jusqu'au bout. Il ne se passait pas un soir sans que le nom de Maol Morda ne vienne voler à son sommeil la tranquillité dont elle rêvait. Il y eut un moment de silence pendant lequel les trois compagnons se lancèrent un regard complice. « Feys, commença Aléa. « Je sais ce que tu penses. » La barde haussa les sourcils. Elle n'arrivait toujours pas à se faire à la maturité précoce de la jeune fille. « Maol Morda, » reprit Aléa. « Tu penses à lui, n'est-ce pas? Tu penses à la promesse que tu t'es faite et que j'ai faite avec toi. Venger la mort des aubergistes. Venger celle de Félim. » La barde acquiesça lentement. Nous ne pourrons pas échapper à notre promesse. En ce qui me concerne, je crois d'ailleurs que je n'en aurai même pas le choix. Mais nous avons d'autres choses à accomplir avant de le chercher. Le nain posa sa cornemuse à côté de lui et tendit l'oreille d'un air soucieux. La gravité de la conversation ne lui plaisait guère.
Ah, qu'est-ce que tu t'es encore mis dans ta petite tête, Aléa ? Quoique l'idée de ne pas aller voir Maol machin tout de suite me fait plutôt plaisir.
Aléa lui adressa un sourire qu'elle espérait rassurant. D'abord, je voudrais retrouver Erwan et Galiad, reprit-elle. La barde et le nain se regardèrent d'un air inquiet. Ils se souvenaient du chaos qui avait conclu le combat contre Sultor. Et ils se souvenaient aussi, bien sûr, de la disparition inexplicable du Magistel et de son fils. « Ils sont vivants, » insista la jeune fille, « je vous le promets. Je ne saurais vous dire où ils sont, mais mon cœur sait qu'ils sont en vie. » Et puis il y a autre chose. Aléa fit une pause et regarda ses deux auditeurs tour à tour. « Vous vous souvenez ? Je vous ai raconté ce que m'ont dit les Sylves, la nuit où ils nous ont accueillis dans la forêt. Ils m'ont dit que je devais accomplir 3 prophéties. » Elle marqua un temps de silence, le regard perdu dans le vide. À présent, elle ne parlait plus à ses compagnons. Elle dialoguait avec elle-même. 3 prophéties. C'est peut-être une réponse aux questions que je me pose. C'est peut-être une explication. Je dois comprendre. As-tu déjà entendu parler de ces 3 prophéties, Faith ? La barde haussa les épaules avec un air gêné. J'aimerais pouvoir t'aider, Aléa. Mais il y a tellement de légendes qui parlent de prophéties, tellement d'histoires, je ne sais à laquelle les Sylves faisaient référence. En vérité, je n'en vois aucune qui puisse avoir un lien direct avec toi, Aléa. Ou plutôt, disons qu'elles pourraient absolument toutes avoir un rapport avec toi.
Faith, vous parlez comme un druide !
Se moqua Mjoln. Aléa acquiesça, mais son regard était toujours perdu. Alors je dois aller au Mont-Tombe, conclut-elle, et sa voix n'était plus qu'un murmure.
Au Mont-Tombe ?
S'exclama le nain.
Quelle idée ! Dans le comté d'Harcourt ? Nous ne serons pas très bien reçus là-bas, ça non ! Pas de nain cornemuseur, pas de barde en mission, et certainement pas de jeune fille qui se prend pour la plus grande druidesse de tous les temps !
J'irai seule, répliqua la jeune fille. Le nain pouffa dans sa barbe blanche.
Voilà une idée encore plus stupide, railla-t-il. Ni Faith ni moi n'avons l'intention de te laisser seule, lanceuse de cailloux. Allons, t'es folle dans ta tête ?
Faith posa une main sur l'épaule du nain, comme pour lui demander de ne pas s'inquiéter. Tu veux aller au Mont-Tombe ? Oui, il y a peut-être là-bas une réponse à ces mystérieuses prophéties. Je pense que tu as raison. Mais nous t'accompagnerons, Aléa. Dorénavant, Mjoln et moi te suivrons partout, tu le sais. Il nous suffira d'être discrets. J'ai déjà été dans le comté d'Harcourt et je connais leurs habitudes. Je ferai tout pour t'aider à trouver ce que tu cherches. De toute façon, tu ne sais pas lire, Aléa. Tu auras besoin de moi. De nous. La jeune fille sourit en acquiesçant.
Grogna Mjoln. Et nous voilà repartis. Par mes petits ancêtres, vous êtes folles toutes les deux.
À cet instant, Faith se leva brusquement. Elle fit signe au nain de se taire. Aléa fronça les sourcils. Tu as entendu ? Demanda la barde. Aléa acquiesça. Elle regardait partout autour d'elle, cherchant derrière les arbres et les rochers ce qui avait pu faire le bruit qu'elle venait d'entendre. Le nain se rapprocha de la barde en grommelant.
« Quoi donc ?»«
Ce n'était peut-être rien, » chuchota Faith. « J'ai entendu un bruit par là, » expliqua-t-elle en désignant une haute futaie de hêtre. « Je vais aller voir. »« Attends !» l'interrompit Aléa. La jeune fille était emplie du Saïman. Il était toujours présent désormais, latent, prêt à bondir dans ses veines, montant dans son corps à la moindre alerte. Elle ferma les yeux et essaya de reproduire ce que Félim avait fait dans le tunnel de Brocélia. Elle se souvenait à peu près de l'exercice. Il avait projeté le Saïman devant lui pour sonder l'obscurité. Aléa se concentra. Elle tenta de pousser le Saïman au dehors, lentement, comme une vague venant caresser le sable. L'énergie monta lentement dans ses bras, dans ses mains, au bout de ses doigts. Elle y était presque. Mjoln et Face adressèrent un regard inquiet à la jeune fille. Dans les yeux du nain brillait même une lueur de reproche. Il n'aimait pas voir Aléa ainsi. Il ne comprenait pas. Il ne voyait rien d'autre qu'une jeune fille aux yeux fermés, aux sourcils froncés, et qui menait un combat intérieur qui ne les inspirait guère. Mais il n'aurait pas osé intervenir. Aléa avait beau être une jeune fille, quand elle usait de ses pouvoirs, elle leur faisait simplement peur. Ils avaient vu ce qu'elle pouvait faire. Et ils savaient qu'ils n'avaient ni les moyens, ni le droit de l'en empêcher. Soudain, le Saïman se répandit autour d'Aléa. Langoureuse lave d'un invisible volcan. Les nuées magiques grandirent de toutes parts, pénétrant l'air tranquillement. Et la jeune fille put alors observer le monde avec l'esprit. Elle vit ses deux amis, elle vit les arbres, et au-delà. Le visage de la jeune fille était complètement fermé, quand soudain, elle expira et ouvrit grand les yeux. Ses deux compagnons sursautèrent. « Ce n'est rien, Face. Ce sont des chevaux, par là, » dit-elle en se dirigeant vers les arbres. « Je me demande même si... »«
Si quoi ?»
demanda Mjoln entre-temps derrière elle. Mais il eut sa réponse avant qu'Aléa n'ait à parler.
« Al-Ragan !»
s'exclama-t-il en voyant apparaître son poney dans la pénombre.
« Tada ! Par là, Moira ! Quelle surprise !»
Face poussa un soupir de soulagement. Ainsi, c'étaient les chevaux qui s'étaient cachés timidement derrière les arbres. Ils étaient venus là, comme s'ils avaient su où retrouver leur cavalier. Il y avait Al-Ragan, mais aussi Dulia, le poney d'Aléa, et les trois autres chevaux. Aléa courut vers son poney, suivi de près par le nain. Les chevaux prirent un peu peur, et il fallut s'y prendre à plusieurs fois pour les attraper. Les trois compagnons attachèrent les animaux finalement rassurés, et les nourrir, en remerciant la Moïra de les avoir ramenés jusqu'à eux.
« C'est un bon présage, non ?»
glissa Mjoln, ravi. « Sans doute, » répondit Aléa. La jeune fille partit vers le cheval de Galliad. Comme les autres, il avait toujours sa selle. Le magistel n'avait pas pris la peine de décharger les chevaux quand ils avaient dû s'en séparer en entrant dans la forêt des Sylves. La jeune fille avait remarqué une petite sacoche à l'arrière de la selle du guerrier. Et elle vit que celle-ci était toujours là. Curieuse, elle se dressa sur la pointe des pieds pour rouvrir la pochette de cuir. À l'intérieur, elle trouva un bandeau d'étoffe bleue. Elle avait déjà vu Galliad le porter au front, les jours où son aume lui tenait trop chaud. Il avait dû l'oublier là, et sans doute n'était-ce pas pour lui une grande perte. Mais Aléa le prit et le rangea dans son sac. Elle se dit que ce serait un moyen pour elle de se rappeler cet homme qui s'était montré si juste et honnête avec elle. Bientôt, elle se l'était promis, elle pourrait lui rendre ce bout d'étoffe, comme un symbole pour sceller son serment. La nuit était tombée complètement, et assis près du feu, Mjoln ne put retenir un bâillement, bientôt imité par la barde. « Allons, couchez-vous, » leur proposa la jeune fille. « Je vais aller faire un tour maintenant. » Le nain lança un regard inquisiteur à la barde. Il se demandait si les promenades nocturnes d'Aléa l'inquiétaient, elle aussi. Depuis leur départ de Brocélia, il ne s'était pas passé un soir sans que la jeune fille ne disparaisse quelques heures, refusant toute compagnie et ne voulant jamais avouer ce qu'elle partait faire au cœur de la nuit. Mais encore une fois, Aléa se leva sans rien ajouter et s'en alla en adressant simplement un petit signe de la main à ses deux amis. Mjoln regarda la silhouette fine de la jeune fille disparaître sous l'ombre des premiers arbres. Il soupira, puis se glissa sous sa couverture en espérant que le sommeil viendrait apaiser son esprit. Quelques heures avant le dîner, Fingin descendit d'un pas décidé dans la grande cour de Saïmina. Il traversa le palais en essayant de ne pas attirer l'attention des serviteurs ou des derniers magistels qui s'entraînaient un peu plus loin. Il arriva devant la maison du boulanger et frappa à sa porte. L'artisan vint rapidement ouvrir. C'était un jeune homme un peu rond, les joues rouges, les yeux brillants et qui souriait facilement. Il essuya ses mains couvertes de farine sur son tablier.
« Maître Fingin ! »
s'exclama-t-il en l'invitant à entrer. Le druide se faufila à l'intérieur en secouant la tête. Asdem, ne m'appelle pas maître. Tu m'as toujours appelé Fingin. Je ne vois pas pourquoi on changerait aujourd'hui.
Mais parce que tu es grand druide,
se défendit le jeune homme en tirant une chaise. Je suis peut-être grand druide, mais je suis toujours ton ami. Alors tu peux m'appeler Fingin, insista le druide, tout en s'installant à la table du boulanger. Les deux amis s'adressèrent un sourire. Ils étaient l'un et l'autre heureux de se revoir. Les derniers événements ne leur en avaient pas souvent donné l'occasion. Le boulanger vint s'asseoir à son tour. Erwan et Asdem étaient, sans conteste, les meilleurs amis du druide, sinon les seuls. Ils étaient arrivés tous les trois en même temps à Saïmina et avaient construit pendant ces 7 années une amitié profonde et sincère. « Le Gnassad doit te donner du travail, » dit Fingin en regardant les nombreuses miches de pain étalées sur les planches de l'artisan.
« Tu n'es pas venu pour me parler de Lugnassad ? Qu'est-ce qui t'amène ?»
demanda Asdem en servant un peu de vin à son ami. « À ton avis ?»«
Erwan ?»«
Tu sais où il se trouve ?» rétorqua Fingin aussitôt.
« Non.
Moi non plus, je suis venu te demander d'user de ton petit réseau d'informations pour essayer de le localiser. Tu connais des gens, des artisans qui font partie de guildes, des bardes, des cheminants. Tu dois pouvoir retrouver sa trace, non ?» Le boulanger acquiesça.
« Je peux essayer, en tout cas. Je pensais que vous autres aviez ça en main. Tu crois qu'il est en danger ? »
demanda-t-il d'un air inquiet. « Il est vivant, en tout cas. Mais je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Il est parti dans le sud, sûrement à la recherche de la jeune fille qui s'est échappée d'ici. Mais où exactement, je ne saurais le dire. » Le boulanger arrêta de boire et fixa longuement son ami.
« Il est amoureux ? »
demanda-t-il finalement en souriant. Fingin ne répondit pas, mais sourit à son tour, et cela suffit pour qu'Asdem comprenne.
« Ah, l'amour !»
soupira le boulanger avant de boire une gorgée de vin. Il reposa son verre sur la table. Ses joues s'empourpraient à mesure qu'il buvait.
« Pourquoi ne l'as-tu pas retenu ? »
demanda-t-il alors que le druide s'apprêtait à se lever. « J'ai essayé. »
« Tu es druide, tu n'avais qu'à lui donner l'ordre de rester. »
« Je ne donne pas d'ordre à mes amis Asdem, non. Mais je lui ai demandé s'il voulait bien devenir mon magistel, et il a accepté de se lier à moi juste avant de partir, de telle sorte que je peux sentir sa présence. C'est ainsi que je sais qu'il n'est pas mort. »
« Et c'est ainsi que tu te retrouves sans magistel. »
« Asdem, tu ne vas pas me faire la morale. J'ai laissé partir Erwan parce qu'il était amoureux. Sincèrement amoureux, et pas de n'importe qui en plus. »
« Qui est cette fille ?»
demanda le boulanger d'un air suspicieux.
« Tu n'as pas entendu parler d'elle ?» s'étonna le druide. « J'ai entendu dire tellement de choses à son sujet que je ne sais plus à quoi m'en tenir. Certains disent qu'elle est le Samil Danak, d'autres disent qu'elle croit l'être mais qu'elle ne l'est pas. Certains prétendent qu'elle est à la solde de l'Arcour, d'autres qu'elle est venue avec les Tuatan. On dit aussi qu'elle est la meilleure amie de la reine de Galassie, ou encore que ce n'est qu'une petite voleuse du comté de Sar. Ça fait beaucoup. »
« Mais encore ?» s'intéressa Fingin.
Elle parlerait avec les animaux, avec les sylves. Certains pensent qu'elle est envoyée par Maol Morda, d'autres par Samael. Bref, cette fille fait beaucoup parler, mais on ne la voit pas. Et toi, que sais-tu d'elle ?»«
Je sais qu'Erwan est amoureux d'elle. Cela me donne plutôt un bon pressentiment. Je sais aussi qu'elle intéresse beaucoup le Conseil, mais que le Conseil ne sait pas trop qui elle est. Enfin, je sais qu'elle a retrouvé la bague du Samil Danak, et qu'il y a donc une chance pour... »
Oui ?
Fingin hésita à parler. Il n'en revenait pas de pouvoir prononcer ces mots. Une chance pour qu'elle soit devenue à son tour le Samil Danak. Le boulanger resta bouche bée. Après un court silence, Fingin se leva.
« Tu pars déjà ?»
s'indigna Asdem.
« Oui, » répondit le druide. « Je dois préparer Lugnassad, moi aussi. Mais je t'en prie, fais de ton mieux pour me dire où est Erwan. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive malheur. Quant à ce que je t'ai dit sur cette jeune fille, garde-le pour toi pour le moment. »
Le boulanger acquiesça et accompagna son ami jusqu'à la porte. Fingin partit sans se retourner de l'autre côté du palais. Il poussa un soupir où se mêlait un peu d'inquiétude et de soulagement à la fois. Il savait qu'il pouvait faire confiance à son ami. Asdem retrouverait sans doute la trace d'Erwan.
Mais serait-il encore temps? Aléa savait où chercher. C'était devenu un rituel depuis plusieurs jours, une sorte de rendez-vous. Elle n'avait qu'à s'éloigner du campement vers le sud, suffisamment loin pour ne plus être en vue de ses deux amis, et là, elle s'asseyait sur l'herbe qui se rafraîchissait dans la nuit tombante, et elle attendait parmi les arbres épars, le bâton de Félim posé sur ses genoux. Elle se laissait bercer par le souffle du vent, vieux compagnon, la rumeur discrète des muscardins qui rongeaient les bourgeons, et comme en souvenir, elle plongeait ses mains dans la terre. Ce soir-là, comme chaque soir, la louve apparut rapidement derrière le tronc d'un tilleul évasé. La louve blanche, si belle. La nuit, ses yeux brillaient comme deux petites torches. Par moments, ils semblaient vides et noirs, puis au moindre mouvement de tête, ils s'allumaient d'un jaune vif qui transperçait la nuit. L'été avait fait tomber le gros de sa fourrure blanche, et elle semblait plus maigre. Pourtant, elle n'avait rien perdu de son allure, noble et fière, haute sur ses pattes droites, prête à bondir, les sens en alerte. Ses oreilles arrondies se dressaient à chaque nouveau bruit, et sa queue battait l'air d'un rythme irrégulier. Quand elle apercevait Aléa, la louve ne semblait jamais tout à fait à son aise. Elle poussait de petits gémissements où se devinaient la gêne, la timidité et la frustration. Elle avançait de quelques pas, puis elle reculait, indécise. Elle baissait alors ses pattes avant comme pour inviter la jeune fille au jeu, puis elle reculait de nouveau en grognant. « Tu ne sais pas ce que tu veux. » Aléa vit le sang sur la fourrure de l'animal. Un instant, elle se demanda si la louve était blessée, mais comme elle se déplaçait toujours avec agilité, elle comprit que c'était le sang d'une proie vaincue. « Tu me reconnais, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, puisque tu me suis. » »« Et pourtant, tu as encore peur de moi. » La louve n'était pas encore prête. Sa mémoire était emplie de mauvais souvenirs. Des images où les verticaux la chassaient, la frappaient. Elle ne comprenait pas bien ce qu'il se passait avec cette verticale-là, et pourtant, elle était irrésistiblement attirée. Comme si elle éprouvait un respect inné pour la jeune fille, celui qu'on éprouve pour un dominant. « Belle. Tu es belle. Approche-toi. » La louve se mit à tourner en rond. Elle était inquiète et excitée à la fois. Elle ne voulait pas s'approcher, et pourtant la jeune fille l'intriguait. Il leur faudrait du temps. L'une et l'autre le savaient. Elle devait construire une habitude, échafauder un lien, et chaque soir les rapprocherait davantage. Mais il était encore un peu tôt. « Je ne sais pas pourquoi tu me suis, ma louve, et je ne sais pas non plus pourquoi cela me fait plaisir. Mais il y a quelque chose entre nous. Tu le sens toi aussi, n'est-ce pas ?» La louve sembla se calmer et s'assit sur son derrière sans quitter la jeune fille du regard. Elles restèrent encore de longs moments à s'épier ainsi, à s'approcher sans se toucher, à s'apprivoiser. La nuit était leur seule complice. Elle-même ignorait ce qui les liait ainsi. Une corde invisible, ancienne, un souvenir encore flou. Mais elles se sentaient bien, l'une en face de l'autre, et cela, pour le moment, leur suffisait. Quand Aléa partit enfin, la louve hurla, la tête dressée dans la nuit noire, et son cri sembla tout de joie. La jeune fille revint vers le campement en silence. Les hurlements de la louve n'avaient pas réveillé ses compagnons. Elle sourit en entendant les ronflements du nain et partit se coucher dans la couverture que Face, comme chaque soir, avait déjà préparée pour elle. Là, elle se mit sur le dos et plongea son regard dans les étoiles. Le ciel semblait ne jamais se finir. Son immensité lui donnait le vertige. Mais c'était un vertige agréable qu'elle avait appris à dompter, à apprécier, car il l'aidait, toutes les nuits, à plonger paisiblement dans le monde de Jar. Le monde où elle avait vaincu Sultor. Le monde où elle avait perdu Galliad et Erwan. « Qu'y a-t-il derrière les étoiles ? D'autres étoiles encore ? Et sur celle-ci, une jeune fille qui, comme moi, regarde la nuit immense ? Où est la Moïra dans cet infini ? Au-delà ? Ou bien au milieu ? Dans chaque chose ? Et pourquoi est-elle là ? Que veut-elle, si elle veut quelque chose ? Si seulement je pouvais comprendre. Tout est lié, je l'ai vu dans l'arbre de vie.
La Moira, le Saïman, les Sylves, moi. Si seulement je pouvais comprendre. Félim aurait peut-être pu m'aider. Mais il n'est plus là, et mes compagnons seraient dépassés par les questions que je me pose. Je dois leur faire un peu peur. Mais j'ai besoin de savoir. À qui pourrais-je demander? Qui saura me guider? Où es-tu, Erwan? Où est ton père? Dans quelle contrée avez-vous fui? Saurais-je un jour vous retrouver? Je suis dans le monde de Jar. Je sens la force de mon esprit qui me porte, qui me pousse. Et si je me concentre, je peux me diriger. J'ai battu Sultor en ce lieu, plus rien n'est impossible. Je me souviens d'avoir vu la louve, ici, à cette époque où je ne comprenais pas. La louve blanche. Pourquoi me suit-elle? Pourquoi puis-je la comprendre? Lui parler? J'ai l'impression de la connaître, mais aussi qu'elle ne se souvient pas. Elle a peur de moi tout autant que je l'intrigue. Elle sait que nous avons quelque chose qui nous unit toutes les deux, mais elle ne sait pas quoi. Peut-être a-t-elle simplement oublié. Peut-être moi-même ai-je oublié. J'aimerais tellement comprendre. Je n'en ai pas assez vu dans l'arbre de vie. J'ai encore tant de questions. La Moira. Je me demande si cela n'est pas la seule véritable question. Qu'est-ce que la Moira? Pourquoi ne puis-je donc pas la sentir? Sentir sa présence? Il y a un rocher là-bas. Un grand rocher au-dessus d'un chemin. Comme un géant de pierre. Comme un géant de pierre.
Samael était devenu maître dans l'art du mensonge. À l'ombre de son grain de folie, on avait du mal à distinguer le vrai du faux dans ses propos énigmatiques. Tant d'années passées à se cacher du conseil des druides, tant d'années passées auprès des grands hommes du monde à gravir lentement les échelons du pouvoir. Sous le nom de Natalien, il était devenu l'un des principaux évêques de Thomas Aeditus, à la cour du comte d'Harcourt, Ferenc Alroeg. Samael se plaisait fort bien dans la peau de l'évêque natalien. On le respectait et on le craignait. Sa dévotion feinte pour le dieu chrétien semblait plus forte même que celle d'Aeditus, et Samael mettait un point d'honneur à jouer son rôle avec un zèle irréprochable. Il faisait mine de prier aux heures de prière, il ne manquait pas une seule messe, punissait les pécheurs, honorait les soldats de la flamme les plus consciencieux, et sa chasteté ne faisait de doute pour personne. Il portait avec élégance ses insignes pontificaux, aube mauve, mitre épiscopale. L'ancien druide était devenu un parfait représentant du clergé d'Harcourt, mais ses desseins étaient bien plus sombres encore que n'aurait pu l'imaginer Thomas Aeditus lui-même. Car voilà, Samael était un renégat. Son éviction du conseil des druides en avait fait un homme aigri, belliqueux et vénal. Une seule chose l'intéressait. Voler aux druides, à ceux qui l'avaient banni, leur bien le plus précieux, le pouvoir politique. Et pour cela, il était prêt à tout, y compris à embrasser faussement la religion des chrétiens pour porter la mitre. Après tout, il n'avait pas à ce jour rencontré un seul évêque dont les intentions réelles fussent tout à fait dénuées d'intérêts secrets, et cela l'amusait encore davantage. Comme partout ailleurs, le château de Ria était en ébullition. La guerre était imminente, inévitable. La seule inconnue restait le choix des différents vassaux concernant leurs alliances. Il paraissait évident que la Galatie et les druides feraient tout pour monter le reste du pays contre Harcourt, contre les seuls chrétiens de l'île. L'occasion était trop belle pour ce fourbe de roi et ses druides manipulateurs. D'ailleurs, l'émissaire que le conseil avait envoyé, le grand druide Aod, n'avait été de leur part qu'une formalité pour se dédouaner. Les druides savaient pertinemment que jamais Harcourt n'aurait accepté un pacte avec eux, et de toute façon, Samael avait intercepté ledit grand druide avant qu'il n'arrive au château du comte. Tant de pouvoir, tant d'années passées à étudier le Saïman. Et le pauvre Aod n'avait pas pu éviter une simple flèche empoisonnée. Samael sourit au souvenir du druide tombant de cheval, son corps transpercé de part en part. Il avait pris un certain plaisir à tuer l'un des grands druides, mais cela ne changeait rien aux données de la guerre qui se préparait. La Galatie et les druides n'auraient aucune peine à entraîner la Sarre et la Bisagne dans cette campagne, et peut-être parviendraient-ils même à convaincre les Tuatanes de s'y mêler. Il ne restait donc plus qu'une seule carte à jouer pour l'Harcourt. La Terre Brune, où le comte Mérian de Mort le Bel détestait son frère le roi. Samael était persuadé qu'il pourrait facilement convaincre Mériande d'unir les armées de Terre Brune à celles d'Harcourt pour combattre la Galatie, les druides et les Touatanes. Cela ne serait pas une guerre facile, certes, mais Samael Ascatan, l'accusateur, avait un avantage. Personne ne savait qu'il se cachait sous le nom de l'évêque natalien. Il entra dans l'office de Thomas Aeditus, auprès duquel il avait demandé à être reçu. « Installez-vous, natalien. Je finis simplement cette lettre et je suis à vous. » Aeditus était un vieil homme, mais il avait l'esprit encore fort vif et une volonté de faire. À lui tout seul, il était parvenu à installer la religion chrétienne dans tout le comté d'Harcourt. Peu de gens de la Gaëlia connaissaient l'histoire de ce mystérieux personnage, mais Samael, lui, comme tous les grands druides, savait. Aeditus était originaire de Brittia, le continent au-delà des mers du Sud. À l'âge de 16 ans, il avait été capturé par un groupe de guerriers galatiens et il était ainsi devenu esclave en Gaëlia. La légende racontait qu'il avait reçu la foi pendant son esclavage, mais cela, Samael avait peine à y croire. Après 6 années au service d'un notable de Galatie, le jeune Aeditus était parvenu à s'évader et était retourné en Brittia, où il avait étudié la théologie pendant 15 longues années. Là-bas, loin de ses mauvais souvenirs d'adolescent, il avait voulu devenir évêque, mais ses nombreuses demandes lui avaient toujours été refusées à cause de son passé mystérieux. Mais quand il s'était proposé pour partir au nord, convertir l'île de Gaëlia au christianisme, il avait enfin été nommé évêque et avait pu commencer sa mission, qu'il avait accueillie comme une revanche contre ceux qui avaient fait de lui un esclave. Il avait conçu de ces sombres années une haine farouche envers la Galatie, et c'était tout naturellement qu'il s'était installé dans le comté d'Harcourt. Là, après 10 années de prêche, il était parvenu à convertir le comte Feren Alroeg en personne, et tous ses sujets avaient suivi. Aeditus fut nommé chef religieux d'Harcourt, mais aussi commandant en chef des soldats de la Flamme, qui devinrent le bras armé de son église. Il avait ainsi donné naissance à un clergé local, nommé à son tour des évêques, établi des diocèses, tenu des conseils cléricaux, et par le biais de ses monastères, il avait développé l'écriture dans tout le comté. Enfin, il avait repris le Mont Tombe pour en faire un centre universitaire et religieux où étaient formés les futurs acteurs du clergé. D'ordinaire, Thomas Aeditus vivait dans le palais épiscopal du Mont Tombe, mais quelques jours plus tôt, le comte l'avait rappelé auprès de lui pour l'aider à gérer la crise qui se préparait. Aeditus plia lentement la lettre qu'il venait de finir et la scella de cire chaude. « Alors, que nous vaut votre visite, natalien ? » demanda-t-il en souriant à son visiteur. Samael lui rendit son sourire. Il s'amusait tant à se faire appeler natalien qu'il se demandait si un jour son amusement n'allait pas le trahir.
« Monseigneur, je voudrais me rendre en Terre Brune. »
« Vraiment ? La politique vous intéresse-t-elle à ce point ? » s'enquit l'évêque d'un ton suspicieux. Samael savait qu'Aeditus se doutait de quelque chose. Pourtant, il ne l'avait jamais empêché d'avancer. Le vieil homme y trouvait peut-être son compte. Comment savoir ? Il y avait tellement de fourberies d'un côté comme de l'autre, tellement de mensonges, de manipulations. C'était comme si les deux hommes s'épiaient, piqués par une curiosité plus forte que leur méfiance, comme si l'un et l'autre attendaient de voir jusqu'où tout cela pourrait aller.
« Vous êtes contraint de rester auprès du comte Alroeg, et après vous, monseigneur, je pense être le mieux à même de convaincre la Terre Brune de s'unir à nous. »
répondit habilement Samael.
« De s'unir à nous pour la guerre, ou bien dans la foi chrétienne ?» demanda Aeditus, qui pourtant connaissait la réponse.
« Je pense qu'en leur proposant de nous unir dans la guerre, nous n'aurons aucune peine à les convertir par la suite. »«
Sauf si nous perdons la dite guerre, natalien, » l'interrompit le vieil évêque. « Nous ne nous attaquons pas seulement à la Galatie, mais aussi aux druides, et peut-être même aux Touatanes. »
« Notre armée est à présent la plus forte de tout le royaume de Gaëlia, et si nous parvenons à battre le haut roi, Nous pourrons mettre son frère Mériande sur le trône, et la Gaëlia tout entière deviendra chrétienne.
Je sais cela, mais les druides...
Les druides,
répondit Samael un peu vite.
Leur pouvoir est-il si important devant celui de Dieu?
C'était une remarque osée. Sous ces termes, Aeditus ne pouvait plus vraiment avouer sa crainte des druides. C'eût été admettre que non seulement la Moïra existait, mais qu'en plus, elle était plus importante que le pouvoir de Dieu. Toutefois, la force des druides était bien réelle. Si réelle, même, qu'elle posait un véritable problème à l'Église. Aeditus avait depuis longtemps compris que ses pires ennemis seraient les druides. En vérité, il l'avait su depuis le premier jour, mais jamais il n'avait rencontré d'homme aussi pressé de mettre fin au règne du Conseil.
Vous semblez détester les druides encore plus que moi,
glissa l'évêque en fixant Samael du regard.
J'ai mes raisons,
avoua Samael.
Nous en avons tous, Natalien.
Les deux hommes laissèrent passer un long moment de silence. Puis Aeditus se leva et partit vers la grande fenêtre qui s'ouvrait derrière son large bureau. Debout devant l'immensité des jardins du château de Rhia, le dos tourné à son interlocuteur, il reprit la parole d'un ton faussement solennel.
Je crois en effet qu'il serait dans l'intérêt du comté comme de l'Église que vous vous rendiez en terre brune. Vous avez ma bénédiction, Natalien.
Les cérémonies de Lugnasad avaient duré jusque très tard dans la nuit. La grande cour de Saïmina se vidait lentement, les torches s'éteignaient les unes après les autres à mesure que druides et bardes retournaient à leurs appartements. Toute la journée, le palais avait été le lieu d'une fête somptueuse. Saïmina avait accueilli, comme chaque année, la plus grande foire de la saison. Les artisans de l'Est de la Sarre, les paysans, les éleveurs, tous venaient vendre, acheter, échanger des biens ou des accords sous l'œil bienveillant des druides. Certains habitants de Sarre profitaient aussi de Lugnasad pour demander aux druides d'intervenir dans le règlement de leurs conflits. C'était le devoir des hommes aux blancs manteaux. Rendre justice. Ce jour-là, il devait résoudre les disputes, réconcilier les âmes, trouver une fin heureuse aux rivalités politiques ou économiques des petites gens comme des seigneurs de la région. Ensuite, vers la fin de l'après-midi, venaient les mariages. Et là encore, les druides officiaient avec grâce. Ils unissaient hommes et femmes sous le signe de la Moïra, dans l'enceinte même de Saïmina. Puis venait le repas, l'occasion pour les bardes de faire entendre au plus grand nombre leurs poèmes et leurs chants, pendant que l'on goûtait les mets délicieux préparés par les cuisiniers du palais. Les Sarrois ne mangeaient jamais aussi bien qu'au soir de Lugnasad. À chaque auberge, sa spécialité. Dans celle-ci, on préparait des rognons de veau avec des feuilles d'oseille et de cresson. Dans celle-là, on goûtait une délicieuse fricassée de lapereau à la crème d'olive, baignée de vin blanc et relevée de sel, de poivre et de basilic. Dans une autre encore, les clients s'empressaient pour partager les râbles de lapin au cidre que l'aubergiste servait avec des pleurotes sautées et quelques grains de raisin qu'il avait fait soigneusement chauffer dans la sauce de cuisson du lapin. Et nulle part le vin ne venait à manquer. À la fin du repas, les gens sortaient du palais et des auberges, ivres pour la plupart, pour aller dans la plaine de Sarre participer aux jeux et aux courses que l'on organisait pour l'occasion, pendant que druides et bardes commençaient dans la cour de Saïmina la cérémonie officielle de Lugnasad autour du vieux chêne centenaire. Les bardes accompagnaient la procession des druides par leurs chants et la musique de leurs harpes. On jouait sur le mode spirituel, le mode secret. Une grande table ronde en bois, coupée en deux, était disposée autour du chêne et l'on y voyait, à la lumière des bougies, les fleurs que les habitants de Sarre avaient apportées toute la journée. Sur les branches les plus basses de l'arbre, on avait accroché des rubans rouges et blancs. Au nord du cercle de pierre, on avait installé une grande cuve d'eau claire et au sud, un large cierge. Les grands druides menaient la procession, guidant bardes, druides, vades et apprentis de l'est vers le sud. L'archidruide expliquait alors « Nous vous avons mené de l'obscurité à la lumière et ce voyage est difficile. » Puis il marchait vers le nord, trempait ses mains dans la cuve d'eau et continuait. Pourtant, nous nous sommes montrés forts, et à travers notre force,
tous ont grandi et prospéré. Que la Moïra continue de répandre sa lumière là où il y a l'obscurité, qu'elle apporte la vie nouvelle et que nous marchions sur son chemin. Et la cérémonie continuait ainsi, jusqu'à ce que tous se retrouvent autour du chêne, que les femmes cueillent les rubans rouges et les hommes les rubans blancs. Tel était le rituel de Lugnasad. Au milieu de la nuit, enfin, il ne resta plus personne dans la cour de Saïmina. Tout le personnel du palais était parti depuis longtemps, mais Fingin, lui, était encore assis sur l'un des 13 grands trônes de pierre qui siégeaient au milieu de la cour. Le plus jeune des grands druides était perdu dans ses pensées. Son inquiétude pour Erwan allait grandissant. Au loin, on entendait l'écho des derniers fêtards qui hurlaient dans la nuit, arrachant aux heures nocturnes les derniers plaisirs de la fête, ces rares moments d'abandon dans leur vie de misère.
« Voudriez-vous être dehors ?»
Fingin sursauta. Il avait reconnu la voix de l'archidruide. Hernan s'était approché sans faire de bruit et l'observait peut-être depuis longtemps déjà. En temps normal, Fingin aurait dû l'entendre arriver, mais il était tellement accaparé par ses pensées que le monde extérieur peinait à l'atteindre. Il se redressa sur son siège. Il essaya de ne pas montrer que la question de l'archidruide le troublait. Il n'avait en outre toujours pas pris l'habitude de se faire vouvoyer par le vieil homme, mais il en était ainsi depuis son élévation au titre de grand druide. « Il se doute que je pense à Erwan. Il m'avait prévenu. Faire de lui mon magistel n'était pas une bonne idée. Qu'avait-il dit déjà ? Idiot, mais généreux. Quand il me demande si je préférerais être dehors, il veut dire loin, auprès d'Erwan. Il va falloir que je m'habitue. Les gens ne me parleront plus jamais comme avant. Il faudra que j'apprenne à tout décoder. La moindre petite conversation devient une joute de l'esprit. La rhétorique ne se confine plus à la grande salle du conseil. On joue aussi dehors maintenant. Mais j'ai accepté d'être grand druide, c'est ainsi. Dehors ? Non, je n'ai jamais raffolé des fêtes nocturnes, mais cela m'amuse de les écouter. Vous les entendez ? Demanda Fingin d'un air naïf. On dirait qu'ils ne veulent plus s'arrêter.
On ne peut pas contrôler tout ce qui se passe dehors depuis l'enceinte de notre palais,
dit l'archidruide en souriant. Il sait que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Bien, je vais jouer le jeu jusqu'au bout.
Je ne suis pas sûr qu'on pourrait le faire même en sortant, rétorqua Fingin. Quand quelqu'un a quelque chose en tête, il est parfois dur de lui faire changer d'avis. Et puis, ce n'est pas tous les jours que ces gens peuvent fêter Lugnasad.
Hernan sourit. Il semblait apprécier la finesse de son interlocuteur. Cela lui rappelait sans doute ses longues soirées passées à dialoguer avec Aileen. L'ancien archidruide avait fait de ses conversations une occupation quotidienne.
« Et vous, Fingin, vous n'avez pas envie, parfois, de n'en faire qu'à votre tête ? On a beau être grand druide, on a toujours des envies, non ?»«
Il me teste. Mais le jeu est trop facile. Pourquoi m'emmène-t-il sur ce terrain-là ? » ?»«
L'envie la plus forte que j'ai eue, de toute ma vie, était de devenir grand druide. C'est un souhait que j'ai réalisé aujourd'hui. » Grâce à vous. Alors je veux le vivre pleinement. C'est sans doute plus important que tout ce qui pourrait m'inciter à partir au dehors.
Vraiment ?
S'étonna l'archidruide en s'appuyant de ses deux mains sur son haut bâton blanc.
Vous étiez là, le jour où Félim s'est confronté à Aileen, n'est-ce pas ? N'avez-vous rien ressenti ce jour-là ? Étiez-vous choqué par l'attitude de notre frère Félim, ou bien l'enviez-vous un peu ?
Cette fois-ci, je ne sais pas s'il me teste ou s'il veut me faire dire ce que j'ai réellement sur le cœur.
« Parfois, » reprit Hernan, « les accidents sont nécessaires, vous savez, et parfois même ils sont bénéfiques aux deux parties. »«
Vous pensez que le départ de Félim était bénéfique ?» demanda Fingin.
« Ah, mon frère, comment vous dire ?»
Le vieil homme partit s'asseoir sur le trône qui se trouvait à la droite de Fingin.
Tenez, prenez l'exemple d'une meute de loups. Quand l'hiver arrive, parfois, le territoire sur lequel vit la meute n'est pas assez giboyeux. La meute est trop nombreuse. Et en hiver, les louveteaux de la dernière portée n'ont pas encore un an, Ils sont l'avenir de la meute, voyez-vous.
Oui. Ils assurent sa survie future, c'est cela.
Exactement. Et les loups savent que ce qui compte par-dessus tout, c'est la survie du clan.
Le futur.
Il arrive dans ces cas-là que la meute doive se séparer de l'un de ses adultes. Commencent alors conflits et batailles entre le couple dominant et un autre loup du clan. Et souvent, les combats deviennent si violents que le loup harcelé finit par céder et quitte la meute pour toujours. La déchirure est terrible. Pour ce pauvre loup solitaire comme pour les membres du clan. Mais au moins, l'équilibre de la meute est rétabli. Elle a plus de chances de passer l'hiver. Et le loup qui se retrouve seul, lui, peut fonder un nouveau clan, ailleurs, sur un autre territoire de chasse.
L'archidruide marqua un temps de pause, comme s'il voulait mesurer l'impact de ses mots sur Fingin. Puis il reprit la parole.
Ce qui est intéressant, Fingin, c'est que le loup qui est chassé n'est pas toujours le plus faible du clan. Certes, c'est souvent celui qui est le moins élevé dans la hiérarchie, mais ce n'est pas forcément le plus faible physiquement. Vous me suivez?
Je ne suis pas sûre, avoua Fingin.
Quand le besoin de l'individu est plus fort que celui du groupe, il vaut alors mieux que l'individu soit exclu du groupe, ne serait-ce que provisoirement, pour préserver son équilibre. Et cela peut très bien fonctionner. Il faut savoir s'exclure. Ce qui compte, Félim nous l'a appris, c'est d'être fidèle à soi-même, même quand être fidèle à soi-même vous empêche de rester dans un groupe.
Fingin acquiesça. Il ne savait pas bien ce qu'Hernan voulait lui dire, mais il lui semblait qu'il saisissait le sens global. L'indécence, en tout cas. Était-ce une défense du choix de Félim? Était-ce une réflexion sur Erwan? Était-ce une mise en garde pour le futur? Peut-être un peu d'étroit. Le jeune homme soupira et ajouta d'un ton ironique.
« Je ne vois pas très bien ce que cela a à voir avec la fête de Lugnasad. »
Ils sourirent tous les deux, puis l'archidruide se leva.
« Je ne sais pas comment te dire ce à quoi je pense. »
« Pourquoi me tutoie-t-il soudain ?»« Sans doute parce qu'il me parle avec le cœur cette fois-ci, sans périphrase. »
« Je pense qu'Aileen aurait su te suggérer cela de manière plus fine, plus délicate, d'une manière que tu aurais pu comprendre plus tard. Je tiens beaucoup à toi, Fingin, et je pense que nous sommes plusieurs au conseil à mettre tous nos espoirs dans ton arrivée. Le Saïman est fort en toi, et tu sais écouter. Mais c'est précisément parce que tu es un excellent druide que tu dois suivre ton instinct, comme Félim. » Le conseil va sans doute traverser la plus grande crise de son histoire. Si Aléa est bien celle que nous redoutons qu'elle soit, cette crise nous coûtera peut-être même notre existence. Je vais avoir du mal à assurer la cohésion du conseil. Aileen aurait fait cela mieux que moi. Mais je suis sûre d'une chose, Fingin, c'est que tu n'es pas là par hasard. Que tu as quelque chose à faire dans tout cela. La Moira t'a placé ici. Je ne sais pas si tu pourras résoudre notre crise ou bien si tu ne pourras que nous aider à la traverser, mais tu dois écouter ton instinct, écouter ta raison, écouter la Moira. »
Il n'ajouta pas un mot de plus, donna une tape amicale sur l'épaule du jeune druide, puis fit volte-face et repartit aussi silencieusement qu'il était venu.